tarde au voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Et oui, nous entrons dans notre 11e semaine au service des enfants privés d'école. C'est un rendez-vous pour toute la famille avec des enseignants en école primaire qui vous proposent d'être plus savants à la fin de l'émission si vous êtes attentifs. Aujourd'hui, l'émission a été commandée par les voisines et les voisins. Il suffit de demander.
Bonjour RFI, j'aimerais savoir quelle est la différence entre les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs. Quand est-ce que j'utilise l'adjectif possessif et quand est-ce que j'utilise le pronom possessif ?
Ouais, bonne question. Il y a de quoi se rafraîchir la mémoire. Mariama qui est au Niger. Il y a aussi une demande d'un des fidèles de l'école à la radio. Ifemi Coquer, 7 ans, Porto Novo au Bénin.
Bonjour 7 milliards de voisins. Je voudrais avoir des astuces de Marie-Christine par rapport à l'heure et l'heure dans les dictées. Je me trompe souvent malgré que je connais la règle. Quand je commence ma dictée, on me la lit et souvent quand j'entends l'heure, je suis un peu perdu, je réfléchis, après j'écris un. Donc je ne sais pas si c'est le juste ou c'est le faux. C'est Fouquet FM.
Bourgeois aussi au Tchad nous dit qu'il mélangeait les adjectifs possessifs et le prof me tapait parce que je disais « ma ventre » ou « mon mère ». Bah, c'est vrai qu'on n'apprend jamais dans la douleur, hein, mais plutôt avec des encouragements. Nous sommes en ligne avec l'enseignante Marie-Christine Aubin. Bonjour Marie-Christine, comment vous portez-vous ?
Je vais très bien, mais vous montez à pile au tétatou ? Oui, ton théma au tématou.
Oula ! Ça y est, c'est reparti. Marie-Christine, dès qu'on lui donne le micro, ça y est, c'est parti pour un vire-langue. J'ai pas tout compris, Marie-Christine. J'ai entendu beaucoup de « ma »,« ta », »,« mon », »,« ton ». Franchement, il faut nous expliquer.
Effectivement, Emmanuel. Je te demandais si monter à l'hydroxychloroquine que je t'ai offert a ôté ta toux, qui, je l'espère, n'est pas causée par le coronavirus.
Oui.
Oui, c'était une manière malicieuse d'aborder le sujet du jour. La différence entre les adjectifs et les pronoms possessifs qui posent problème à Ifemi, mais aussi à nos deux jeunes auditeurs de ce matin.
Oui, tout à fait. Ils sont nombreux. Bon, des activités sur les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Et on va voir tout ça dans quelques instants avec vous, Marie-Christine. Et puis à la récréation, un conte chinois, la merveilleuse histoire de la petite Hu, une élève un peu distraite sur le chemin de l'école et qui arrive toujours en retard pour la classe. Et en fin d'émission, à ne pas manquer pour les grands, la chronique de Sylvia Serbin. Aujourd'hui, une héroïne afro-américaine, Harriet Tubman. Née esclave, résistante anti-esclavagiste au 19e siècle, surnommée aussi la Moïse du peuple noir américain. L'émission est réalisée en direct chaque jour avec une équipe en confinement et en studio, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même. Et bien sûr, on vous donne la parole tous les jours. Vous continuez de poster vos messages au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Bonjour les voisins, les voisines. Je suis Jemmy Mantumba à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je veux remercier l'émission. Ça m'aide surtout en mathématiques et mes frères et sœurs qui ne se débrouillaient pas en mathématiques. Maintenant, avec tous les conseils qu'on nous donne, ça va. Je vois même mes parents sont fiers. Je veux aussi demander si vous pouviez un peu préciser vraiment l'heure à laquelle vous commencez, parce que nous, parfois, c'est un hasard qu'on voit ça. Et je vais demander au professeur, s'il vous plaît, vous pouvez un peu bien parler, hein, surtout les mots que le professeur dit, si vous pouviez un peu répéter ça nous ferait vraiment du bien. Parce que parfois, mon cahier aussi, il y a des places que je laisse vides et tout. Je ne peux pas compléter parce que je ne comprends pas. Et les histoires qu'on nous raconte, moi, parfois, je l'écoute en cachette pour raconter l'histoire à mes frères. Et puis j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux mots.
Merci pour le message, Jemima. Alors, les horaires de l'émission, pas question de l'écouter par hasard, bien sûr. Il faut être prêt, avoir préparé du papier, de quoi écrire, les ardoises, les craies, etc. 10h10, temps universel, 11h10, heure de Kinshasa. Il y a la rediffusion aussi la nuit à 2h10, temps universel. Donc, ça fait 3h10 à Kinshasa, pour ceux qui ne peuvent pas réécouter sur Internet, qui n'ont pas assez de crédit Internet.
Coucou les voisins et les voisines, c'est John Davidson. Je suis à Calavi, en République du Bénin. J'aime beaucoup l'école à la radio car cette émission me permet de bien comprendre certaines leçons que j'ai déjà vues à l'école, comme toutes les écoles sont fermées. J'ai beaucoup apprécié la leçon du professeur Adama Keïta sur le dictionnaire « Comment reconnaître les lettres de l'alphabet. Avant, dans mes dictées, je faisais certaines fautes, mais maintenant, grâce à ces leçons, j'arrive à faire moins de fautes. Merci beaucoup. Au revoir. Gros bisous à tous. »
Gros bisous à toi aussi, John Davidson. Et puis, il y a le message d'Eladj, qui a 31 ans, qui est à Nouakchott. Je ne regrette pas d'être allé à l'école, même si je l'ai quitté assez vite, pour apprendre à être carreleur. Alors, carreleur pour les enfants, hein. En maçonnerie, c'est celui qui pose le carrelage sur le sol des maisons. Pour ce métier, nous dit Eladj, il faut être bon en géométrie et en calcul, car je dois tous les jours calculer le nombre de carrelages qu'il faut pour une surface. Ça va donner des idées au professeur Gérard Sansfaute pour vous faire des problèmes avec des carrelages. Et je dois aussi savoir combien cela va me coûter pour acheter les carrelages et combien je vais gagner en les posant. Voilà. N'oubliez pas, les voisins, nous envoyez vos témoignages. On vous pose la question régulièrement dans cette émission. Pour les grands, hein, à quoi sert l'école dans vos métiers de tous les jours? Quels sont les savoirs scolaires que vous utilisez? Postez vos réponses en audio au 33 1 84 22 71 71. Vos témoignages sont utiles pour les enfants.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Et nous voilà revenus au pays des adjectifs possessif et des pronoms possessifs. Avec vous, Marie-Christine Aubin, on va bien s'appliquer à la demande de Jemima et d'autres petits voisins et voisines. Bien prononcer tous les mots, pas trop vite pour qu'ils aient le temps de prendre des notes sur leur cahier. Donc, vous nous parlez d'abord des adjectifs possessifs. C'est ce qui pose problème à Iphémie.
Oui. Oh, les voleurs ! Les voleurs ! Arrêtez-les ! Vite ! La police !
Nos voleurs, nos voleurs. Et tu veux faire arrêter qui, Marie-Christine, exactement?
Eh ben, les adjectifs possessifs pluriels. Nos, vos, leurs.
Ouais.
Nos parents, vos maisons, leurs champs.
Ah, je les vois de loin, d'ailleurs. Donc, ils sont avec ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, notre, votre, leur.
Oh, mais c'est le gang des adjectifs possessifs au complet. Ils sont là tous les 15. Sapristi, nous allons sérieusement nous en occuper.
Voilà, le gang des adjectifs possessifs. Rien que ça, ça va nous permettre de mémoriser. Alors maintenant qu'on a attrapé les adjectifs possessifs, on va pouvoir les comprendre. Qu'est-ce qu'on peut dire, Marie-Christine, pour la défense des adjectifs possessifs?
Nous sommes un déterminant qui exprime la relation d'appartenance d'une personne, d'un animal, d'un objet, d'un mot abstrait à une personne.
Oui.
Nous rappelons que le déterminant est un petit mot obligatoire qui se place devant un nom commun et certains noms propres. Nous déterminons la relation entre ce qui est possédé et celui, celle ou ce qui parle.
C'est-à-dire
ma chèvre, mon mouton, mes poules, nos dromadaires.
Oui.
Celui, celle ou ceux à qui je parle ou à qui nous parlons. Ton cheval, ta vache, vos zébus. Celui, celle ou ceux dont je parle ou dont nous parlons. Son chien, sa chatte, leur coq, ses canards. Mmh. Leur pintade.
Donc on voit que l'adjectif possessif, il s'accorde toujours en fonction du propriétaire, hein, finalement.
Alors, il s'accorde à la fois en genre et en nombre en fonction du propriétaire et en fonction des noms qu'il précède.
On a un auditeur à Caille qui nous a envoyé ce petit moyen mémotechnique pour bien se souvenir de ces adjectifs possessifs. Montons son, monte le son. Matassa forme les couples. Métessé sont venus nombreux. Notre leurre ont pris nos voleurs. Vous voyez comme quoi on revient bien à vos histoires de voleurs du début, Marie-Christine.
Oui, je ne connaissais pas.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Oui, mais c'est très bien.
Alors, je vais
donc
le redire.
Tu peut-être le répéter.
Eh bien, oui. Voilà, je vais le répéter. Donc, écoutez bien, les enfants. Mon ton son monte le son. Matassa forme les couples. Métessé sont venus nombreux. Notre leurre ont pris nos voleurs. Et là, on les a tous cités, pratiquement.
Oui, tous cités. Ils sont au nombre de 15.
Voilà, pour les adjectifs possessifs. Alors, on va voir si tout le monde a bien compris, Marie-Christine. Vous nous proposez le choix entre deux adjectifs possessifs. Vous nous faites une phrase, c'est ça. Et il faut qu'on choisisse, il ne faut pas se tromper. C'est bien ça, hein ?
Absolument. Alors, on va corriger tout de suite.
Alors, vous pouvez donc, là, vous n'avez pas besoin d'écrire, les enfants. Vous allez répondre à l'oral avec un grand frère ou une grande sœur. Ou si vous êtes tout seul, de toute façon, c'est très simple. Parce que quelques secondes plus tard, Marie-Christine vous donne la correction.
Oui.
Alors, Aïssa a un livre. Est-ce que c'est son livre ou sa livre ? Aïssa a un livre, c'est son livre ou sa livre ? Bonne réponse, Marie-Christine.
Son livre.
Voilà.
Parce que livre est un mot masculin.
Mamadou et Djibril ont des billes. Ce sont leurs billes ou ses billes ? Mamadou et Djibril ont des billes. Leurs billes ou ses billes ? Réponse.
Leurs billes, parce qu'ils sont deux à avoir des billes. C'est un sujet pluriel. Donc, c'est leur.
Mes parents ont une voiture. C'est sa voiture ou leur voiture ? Mes parents ont une voiture. C'est sa voiture ou leur voiture ? Avec quoi on accorde ? Avec la voiture ou avec les parents ?
Alors, avec les deux. Donc, comme le sujet pluriel, c'est leur. Mais comme voiture est un masculin singulier, c'est leur. Donc, c'est leur voiture.
Leur voiture.
Parce que le sujet est pluriel.
Fatou a une poupée. C'est son ou sa poupée ? Alors, Fatou a une poupée. C'est son ou sa poupée ? Là, c'est plus facile.
C'est sa poupée.
Ah oui, parce que de toute façon, là, tout est au singulier. Mais avec quoi on accorde réellement ?
Avec poupée, parce que c'est... Alors, on accorde avec Fatou, parce que le sujet est troisième personne du singulier. Et avec voiture, qui est un nom...
Poupée, avec la poupée.
Avec poupée, qui est un nom féminin au singulier. Donc, c'est sa poupée.
Nous aimons les mamans. Nous aimons vos ou nos mamans ? Nous aimons les mamans, nous aimons vos ou nos mamans ? La bonne réponse est...
C'est nos mamans, parce que le sujet, c'est la première personne du pluriel, nous. Donc, l'adjectif possessif qui correspond, c'est nos.
C'est bien nos mamans. Mamans. En effet, et pas les mamans de quelqu'un d'autre. Son livre, voilà, alors on a tout donné maintenant, on a tout dit. Maintenant, Marie-Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence avec les pronoms possessifs ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre à la fois ce qu'ils sont et leurs fonctions.
Voilà, donc eux, ce sont des magiciens. Comme je l'ai déjà expliqué, pronom veut dire à la place du nom. Donc, les pronoms possessifs remplacent le groupe nominal composé d'un adjectif possessif et d'un nom. Cela évite de répéter sans arrêt le groupe nominal. Donc, hop, abracadabra, pchit, d'un tour de passe-passe, ils font disparaître le groupe nominal qu'ils représentent pour prendre sa place. Alors, ce qui permet, ça c'est très important, les enfants, ce qui permet de distinguer le pronom possessif, c'est qu'il est toujours précédé des articles définis, le, la, les, en fonction du genre et du nombre. Donc là, ils ne sont plus que 7 dans chacune des catégories. Il y a 4 formes au singulier et 3 au pluriel. Car à la troisième personne du pluriel, il n'y a qu'une seule forme pour le masculin et le féminin.
Bon, alors pour résumer tout ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, hein, les adjectifs possessifs, on les a vus, monton, son, là on les voit bien apparaître, son livre, leur voiture, sa poupée, et les pronoms possessifs, pchit, abracadabra, disparition, hein, ça remplace, ça contracte, hein, c'est bien ça, on fait disparaître le groupe nominal, c'est bien ça, hein, Marie-Christine.
Voilà, et on prend la place.
Voilà. Eh bien, on va voir ça tout de suite avec des exemples.
Voilà. Alors, s'il s'agit de celui, de celle ou de ceux qui parlent, on va remplacer le groupe nominal par le mien, si le groupe nominal est masculin singulier, la mienne, si le groupe nominal est féminin singulier, les miens, si le groupe nominal est masculin pluriel, les miennes, si le groupe nominal est féminin pluriel. Et si nous sommes plusieurs à parler, nous allons remplacer par le nôtre au masculin singulier, la nôtre au féminin singulier, les nôtres au masculin et féminin pluriel.
Voilà, au pluriel, donc c'est la même chose, que ce soit du féminin ou du masculin. Alors, on va donner des exemples, Marie-Christine.
Oui, il faut que ce soit un peu plus clair, parce que tout ça, c'est bien compliqué. Hein. Alors, Emmanuel, j'aime mon papa. Moi aussi, j'aime le mien.
Voilà, moi, je vous réponds aussi. Moi aussi, j'aime le mien. Et ça m'évite de répéter le nom papa.
Mon papa. J'aime ma maman.
Et je vous réponds, moi aussi, j'aime la mienne. Et comme ça, j'ai pas besoin de répéter, j'ai pas besoin de dire, moi aussi, j'aime ma maman, j'aime la mienne.
J'aime mes oncles.
Eh bien, là aussi, je vous réponds avec le magicien pronom possessif qui fait tout disparaître, y compris les oncles. Moi aussi, j'aime les miens. Pchit, abracadabra, les oncles ont disparu.
Oh là là, nom d'une pipe en bois. Moi, j'aime mes tantes.
Moi aussi, j'aime les miennes.
Et les voilà disparues.
Et ben voilà, ouais. Vous voyez, avec un pronom possessif, tout s'arrange, on fait disparaître tout le monde.
Nous apprécions notre maître.
Nous aussi, nous apprécions beaucoup. Je ne vais pas dire notre maître, je fais disparaître le maître. Nous apprécions beaucoup le nôtre, avec le pronom possessif, donc.
Nous apprécions beaucoup notre maîtresse.
Nous apprécions beaucoup la nôtre.
Nous apprécions beaucoup nos maîtres et nos maîtresses.
Nous aussi, nous apprécions beaucoup les nôtres. On est bien et au féminin. Pluriel, mais c'est la même chose, hein, finalement,
oui,
qu'on soit au masculin ou au féminin. Exactement.
Oui, nous avons nos maîtres et nos maîtresses, donc ils sont remplacés par les nôtres.
C'est la même chose, féminin et masculin.
Alors maintenant, si je parle à celui, à celle, à ceux à qui je parle ou à qui nous parlons, les pronoms possessifs sont le tien au masculin singulier, la tienne au féminin singulier, les tiens au masculin pluriel, les tiennes au féminin pluriel. Et si je parle à plusieurs personnes, c'est le vôtre au masculin singulier, la vôtre au féminin singulier, les vôtres au masculin et féminin pluriel.
Alors voilà, on voit bien les tiens, les tiennes, on est au pluriel, mais là il y a bien une différence. Hein, mais par contre, pour le vôtre, la vôtre, quand ça passe au pluriel, c'est la même chose, il n'y en a qu'un seul, les vôtres, que ce soit du féminin ou du masculin.
Voilà. J'aime ton pagne.
Eh bien moi, je préfère le tien. Et le pagne a disparu, encore une fois, grâce au pronom possessif qui permet de ne pas répéter le nom.
Ton pagne. J'aime ta robe.
Je préfère la tienne.
J'aime tes bracelets.
Alors, les bracelets, c'est bien du masculin. Je préfère les tiens.
J'aime tes chaussures.
Les chaussures, on les fait disparaître, mais c'est du féminin. Je préfère...
Pluriel.
Pluriel, bien sûr. Bah, c'est rare, hein, une seule chaussure. Hein, on est mal parti dans la vie.
Ah, si on la perd, si on la perd.
C'est ça. Alors, eh bien, vous m'avez dit « j'aime tes chaussures ». Moi, je préfère... Les tiennes, Marie-Christine.
J'aime votre pantalon.
Je préfère le vôtre. Masculin singulier.
J'aime votre veste.
Je préfère la vôtre.
Féminin singulier. J'aime vos baskets et vos chaussures.
Je préfère les vôtres.
Qui remplace vos baskets masculin pluriel et vos chaussures féminin pluriel. Là, vous vous rendez compte, hein ? Vos baskets et vos chaussures, ce sont quatre mots et ils ont disparu, remplacés par les vôtres.
Exactement. Ça en fait quand même des pronoms possessifs. Hein.
Oui, mais ça se retient une fois qu'on a compris le truc.
Ah ouais, mais avec vous, tout est toujours facile. Hein.
Ah ben oui. Alors maintenant... Ce qui remplace celui, celle et ce dont je parle, dont nous parlons, dont on parle. Le sien, masculin singulier. La sienne, féminin singulier. Les siens, masculin pluriel. Les siennes, masculin, féminin pluriel. Et comme quand le sujet est, représente plusieurs personnes qui partent, c'est le leur au masculin singulier, la leur au féminin singulier, les leurs pour les masculins et les féminins pluriels.
Oui, alors là, quand on dit bien le leur, la leur, hein, c'est L-E-U-R. Hein. Il n'y a pas de voilà. S à leur. Je dis ça parce que ça y est, on a pas mal de questions sur les réseaux sociaux, sur la différence entre leur au singulier et au pluriel, et dans quel moment aussi les employer. Alors, on va donner...
Les exemples vont faciliter la compréhension.
Ouais. Allez, c'est parti parce que ça passe vite. Il faut dire que les pronoms possessifs, ça fait tourner la pendule. Hein. Allez, c'est parti, Marie-Christine.
Mamadou range son vélo.
Il range le sien.
Aïssa couche sa poupée.
Elle couche la sienne.
Mamadou range ses ballons.
Il range les siens.
Aïssa range ses poupées.
Elle range les siennes. Plusieurs poupées, c'est du féminin.
Voilà. Les parents admirent leur camion. Ils sont deux les parents,
ah
donc
oui.
C'est un sujet pluriel. Mais ils ont combien de camions ?
Ils n'en ont qu'un seul, donc... Ils admirent le leur.
Au singulier.
Ouais.
Les parents, ils sont deux, n'est-ce pas ? Donc, ils sont pluriels. Ils admirent leur voiture. Combien ont-ils de voitures ?
Hélas, ils n'en ont qu'une. Donc, ils admirent, ils admirent la leur.
Donc, la leur, L-E-U-R. Le leur, le camion, L-E-U-R. Mais maintenant, Mamadou et Aïssa rangent leurs ballons et leurs poupées.
Ah, alors, Mamadou et Aïssa, donc ils sont plusieurs.
Ils sont deux. Ils sont deux, déjà.
Ils rangent leurs ballons et leurs poupées.
Parce qu'ils ont plusieurs ballons.
Eh oui, ils ont de la chance.
Ils ont
plusieurs poupées. Ils ont beaucoup de jouets, Mamadou et Aïssa. Donc, ils rangent les leurs.
au pluriel, et L-E-U-R-S.
Exact. Et quand on écrit leur ballon, leur est aussi au pluriel. Ballon, bien sûr, est au pluriel. Leur poupée, tout est au pluriel. L-E-U-R-S et poupée, P-O-U-P-E accent aigu, E-S. Donc c'est facile
parce
ensuite.
Ils
rangent les leurs et ça va bien rester au pluriel.
Parce qu'ils ont la chance d'avoir plusieurs ballons et plusieurs poupées.
Ouais. Alors il y a un truc quand même qu'on n'a pas.
Oui. Papa et maman, ils n'ont qu'un camion
et
qu'une
oui.
voiture.
Ah bah, ça coûte un peu plus cher que les ballons et les poupées, il faut dire. Alors, il y a quand même un truc qu'on n'a pas spécifié, Marie-Christine. Il se passe un truc sur le haut, là, quand on dit la vôtre, les vôtres.
Vous savez, comme certains magiciens, le nôtre, la nôtre, les nôtres, le vôtre, la vôtre, les vôtres, se mettent en plus un petit chapeau sur le haut pour faire plus chic. Il est vrai qu'un accent circonflexe sur le haut, c'est très élégant.
Oui.
Et que cet accent circonflexe les démarque de ces gangsters d'adjectifs possessifs, notre et votre, qui n'ont même pas une casquette en forme d'accent aigu ou d'accent grave sur leur haut. Absolument rien, la boule à zéro.
C'est ça. Donc c'est le vôtre, la vôtre, les vôtres qui ont un chapeau, qui sont plus élégants que les autres.
Ah,
en effet.
C'est les magiciens.
Exactement. Chapeau de magicien, exactement.
Voilà.
Alors, pour revenir sur la question d'Iphémie, et d'ailleurs aussi de Maki Apita en Guinée, la différence entre l'heure et l'heure. Qu'est-ce qu'on peut re-résumer et réexpliquer sur l'heure et l'heure, un au singulier, un au pluriel, mais ce n'est pas tellement l'histoire du S, hein. C'est qu'ils sont tantôt pronoms possessifs, si je ne me trompe pas, et adjectifs possessifs.
Voilà.
Tantôt des magiciens, alors, tantôt des gangsters.
Alors, quand il est gangster, quand il est adjectif possessif, que ce soit au singulier ou au pluriel, il précède obligatoirement un nom avec lequel il s'accorde, puisqu'il est un déterminant et il ne peut pas s'employer seul. Alors, il est suivi, j'ai dit mon vélo, donc mon adjectif possessif précède le nom commun. Si je dis leur voiture, leur précède le nom commun voiture. Si je dis mon, leur camion, leur précède le nom commun camion. Et je peux trouver des situations où je dis mon gros camion. Donc là, on a intercalé un adjectif qualificatif. Donc, un adjectif possessif suivi d'un adjectif qualificatif suivi du nom commun.
Marie-Christine, il nous reste très peu de temps. On va faire un petit exercice où d'ailleurs, on va retrouver les petits pièges avec l'heure.
D'accord.
Un petit texte. Et au fur et à mesure, on va détecter quand est-ce qu'on a des adjectifs possessifs et quand est-ce que nous avons des pronoms possessif. Vous nous lisez le petit texte et au fur et à mesure...
Oui, je voulais juste très vite dire que quand l'heure est un pronom possessif, il est généralement suivi d'un verbe et il ne s'accorde jamais.
Vous avez raison de le spécifier. Alors, je lis les phrases et vous nous précisez bien quand est-ce que nous repérons les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs. Ma maman roule dans sa voiture. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir détecté ? Ma maman roule dans sa voiture.
Ma et sa, adjectif possessif.
Elle va rendre visite à son père.
Son père, adjectif possessif.
C'est le sien qui est le chef de notre village.
Alors, le sien remplace son père. Donc, c'est un pronom possessif. Notre village, notre, adjectif possessif.
Parce qu'il y a bien le nom ensuite. Avez-vous un chef dans le vôtre ? Le vôtre, sous-entendu, le village.
Voilà, donc là, c'est le pronom possessif parce qu'il remplace votre village.
Et un dernier, les chefs donnent leur sage conseil.
Leur adjectif possessif, parce qu'ils sont suivis par l'adjectif qualificatif sage et conseil non commun.
Voilà. Marie-Christine, on va s'arrêter là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire hein, sur les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs. Mais je crois qu'on a à peu près compris la différence. Hein. Dans quelques instants, on va suivre une petite fille sur le chemin de l'école qui arrive toujours en retard. C'est une histoire qui est inspirée d'un conte chinois. Très bonne journée, Marie-Christine, chez vous au village.
Merci, au revoir à tout le monde.
Et à très bientôt, bien sûr, Marie-Christine.
À très bientôt. Au revoir.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
La merveilleuse histoire de la petite Hou. Un conte de Rose Péquignot. Collection Contes des Quatre Vents, aux éditions L'Harmattan. Il y avait autrefois dans un village en Chine une petite fille qui s'appelait Hou. Elle vivait avec sa mère dans une jolie maison au toit recourbé, entourée d'un merveilleux jardin fleuri. Chaque matin, après avoir salué le portrait de son père, le riche marchand Su Fa, qui était en voyage, Hou embrasse sa mère et part à l'école. Sa mère glisse dans son sac une galette pour son goûter et quelques graines séchées de melon pour grignoter en route, car le chemin est long jusqu'à l'école. Tout allait très bien, jusqu'au jour où un messager apporte à la mère de Hou un rouleau de soie sur lequel est écrit
« Très honorable dame Hua Fa, la très indigne maîtresse de l'école où vous avez la bonté d'envoyer votre fille Hou, se voit obligée de vous révéler la vérité, si dure soit-elle. Votre fille ne sera plus reçue à l'école si elle continue à arriver chaque jour en retard. »
Dame Hua Fa est fâchée, mais surtout très étonnée. Chaque matin, Hou part bien à l'heure, donc elle ne devrait pas être en retard. Après avoir longtemps réfléchi, la douce dame Hua Fa ne dit rien à sa petite fille Hou. Le lendemain matin, elle s'enveloppe d'un long manteau et la suit sans se faire voir. La route qui mène à l'école est toute droite. Mais au premier carrefour, Hou prend un petit chemin qui s'éloigne sous les grands arbres. Puis elle arrive devant un grand portail fermé. Alors, elle siffle doucement. Aussitôt, un grand chien blanc comme neige se jette sur la grille et veut jouer avec elle. Hou passe sa main à travers les barreaux et le caresse. Elle partage sa galette et en donne un morceau au beau chien prisonnier. De sa voix douce, elle console l'animal qui lui lèche la main. Puis, elle s'en va. Hou, revenu sur la route de l'école, se hâte maintenant. Sa mère pense que malgré cet arrêt, elle peut encore être à l'heure à l'école. Mais elle se trompe, car Hou s'engage sans hésiter sur un autre petit chemin. Elle court et arrive bientôt devant une toute petite maison entièrement close, comme abandonnée. Pourtant, au volet d'une fenêtre, il y a une cage. Et dans la cage, un ravissant oiseau bleu qui se met à chanter de toutes ses forces en voyant Hou. La petite fille passe son doigt fin à travers les barreaux et l'oiseau bleu le picore tendrement. Après un dernier gazouillement, elle émiette pour lui un peu de galette et met aussi dans la cage quelques graines séchées de melon. Puis elle court sur le chemin. Elle arrive enfin à la grande route. Sa mère, toujours cachée, soupire. La porte de l'école sera sûrement fermée maintenant. Mais Hou tourne encore une fois sur la droite, dans un petit chemin bordé de grands murs. Elle entre dans un jardin orné d'un grand bassin de marbre. Elle se penche sur l'eau claire et 20 petits poissons d'argent se jettent sur les miettes qu'elle laisse tomber dans l'eau. Heureux, ils frétillent et ils dansent pour elle dans l'eau limpide. Un vieil homme s'approche en clopinant dans l'allée bordée de fleurs magnifiques. Il salue Hou et, de sa voix cassée, lui donne des nouvelles de ses amis les fleurs. Les roses vont éclore, mais les tulipes se fatiguent et les giroflées percent à peine. Hou questionne doucement et les yeux du vieux jardinier brillent de joie. Puis Hou s'enfuit, laissant derrière elle du bonheur jusqu'au lendemain. Hélas, elle a beau courir maintenant, l'heure est passée depuis longtemps. Elle arrive une nouvelle fois en retard à l'école. Heureusement, les mères savent toujours ce qu'il faut faire. Tandis que Hou dort dans son lit sous sa couverture de soie rouge brodée, sa mère reste éveillée toute la nuit. Au matin, un rayon de soleil à travers le volet réveille Hou. Elle court ouvrir sa fenêtre et voit son vieil ami le jardinier qui ratisse le sable fin dans un parterre de fleurs nouvelles, l'oiseau bleu qui chante dans une cage d'or et le grand chien blanc, fou de bonheur, qui court dans les allées autour du bassin où les poissons d'argent scintillent et dansent. Hou, les yeux émerveillés, reste muette de bonheur. « Eh bien, mademoiselle, » dit alors Dame Huafa en entrant dans la chambre, « j'espère maintenant que vous ne serez plus jamais en retard à l'école. » Ainsi se termine la merveilleuse histoire de la petite Hou, qui ne pouvait abandonner tous ses amis, mais qui ne pouvait évidemment pas continuer à être en retard à l'école.
Voilà l'histoire de la petite Hou, une petite fille bien chanceuse d'avoir finalement toutes ces merveilles à portée de main dans son jardin. À la mise en onde, Romain Dubrac avec la voix d'Héloïse Auria. Le conte est écrit par Rose Péquignot, inspiré d'un conte chinois, publié dans la collection des contes des quatre vents aux éditions L'Harmattan. Et puis je signale aussi le message d'Abderrahman qui est à Nouadhibou en Mauritanie. Il se régale avec les contes grâce à la voix envoûtante d'Héloïse, à l'environnement solo, sonore et à la bonne qualité des textes qui me bercent. Je dois partager ces émotions avec les élèves et les collègues. Voilà, dans quelques instants, on donne la parole à Sylvia Serbin.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Après les contes des femmes, des héroïnes noires dans l'histoire du continent ou dans les diasporas. Bonjour Sylvia Serbin.
Bonjour Emmanuel et à tous les auditeurs aussi.
Chaque semaine, vous nous faites découvrir une vie, des tourments, des actes aussi qui sont restés dans l'histoire. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à nos auditeurs. Nikabou qui est à Lomé au Togo nous dit merci à Madame Sylvia Serbin de nous raconter l'histoire des héroïnes africaines et de la diaspora. Pape au Sénégal, il écoute de Tivawan au Sénégal. Il est étudiant en Master 2 de géographie à l'université Charanta Diop à l'UQAD. Et il aime évidemment découvrir les histoires des héroïnes du continent. Alors aujourd'hui, Sylvia, alors que l'Amérique s'est embrasée après la mort de George Floyd par un policier blanc, et dont les obsèques d'ailleurs auront lieu demain, eh bien vous avez choisi de remonter le fil du temps, mais du côté des États-Unis, pour nous parler d'Harriet Tubman, esclave et résistante anti-esclavagiste afro-américaine au XIXe siècle. Elle était surnommée la Moïse du peuple noir américain.
Oui, tout à fait. Elle est célébrée comme une icône de l'histoire afro-américaine pour avoir osé défier le système esclavagiste. Alors Harriet Tubman a consacré sa vie à rendre leur liberté à des Noirs en esclavage après s'être elle-même enfuie d'une plantation.
Elle est vraiment née esclave, hein, on est bien d'accord, dans une plantation de tabac dans le Dorchester, dans le Maryland, c'est-à-dire sur la côte est des États-Unis.
Exactement. Alors, elle est née vers 1820, et son vrai nom, c'était Araminta Ross. Et elle prendra plus tard le nom d'Harriet, qui est le prénom de sa mère, quand elle s'enfuira. Alors, elle est une des rares rescapées des 11 enfants de son père et de sa mère. Presque tous ses frères et sœurs ont été vendus par le maître blanc chaque fois qu'il a eu besoin d'argent. Et ses grands-parents venaient directement d'Afrique, donc c'était des authentiques Africains. Et elle, elle fait partie d'une deuxième génération de Noirs issus de l'Amérique.
Et dès l'âge de 5 ans, elle est mise au travail.
Tout à fait. Alors, elle est mise au travail et de l'aube au coucher, elle aide aux tâches domestiques. Et en grandissant, elle sera louée par son maître à des familles blanches du coin dont elle surveille les enfants, avant d'atterrir un peu plus tard dans un champ de tabac. Et toute sa vie de labeur est rythmée par les coups de fouet dont les blancs faisaient constamment usage pour châtier les noirs. À 23 ans, son maître décide de la marier avec un noir libre, c'est-à-dire qui avait été émancipé, qui n'était plus esclave, afin qu'elle produise des enfants pour perpétuer son cheptel humain, parce que les femmes étaient considérées comme des reproductrices de main-d'œuvre pour les propriétaires esclavagistes. Mais cela n'arrivera pas. Un jour, elle apprend que le maître veut vendre un nouveau lot d'esclaves pour renflouer ses comptes, et elle fait partie du groupe. Et dans le système esclavagiste, donc les Noirs pouvaient être achetés, vendus ou échangés au même titre que des bœufs ou du matériel agricole. Et donc en tant que marchandises, les enfants étaient arrachés à leur mère, les hommes à leurs femmes et les femmes à leur famille. Donc Harriet décide de fuir.
Et donc une nuit, elle file vers une piste dont elle pense qu'elle doit mener vers le nord. Alors pourquoi le nord, Sylvia ? Parce que c'est là que les Noirs sont libres aux États-Unis.
Voilà, dans cette Amérique du milieu du 19e siècle, il y avait deux fronts antagonistes, les États du Nord industrialisés et qui, dans leur majorité, ne pratiquaient plus l'esclavage, et le Sud rural, dont l'économie reposait sur de grandes plantations, tabac, coton, riz, et sur une main-d'œuvre de Noirs qui avait été kidnappée en Afrique. Alors Harriet marche des nuits durant à travers les bois et marécages. Le jour, elle dort loin des zones habitées pour éviter les milices blanches à cheval qui font la chasse aux fugitifs. Et enfin, elle arrive dans l'état anti-esclavagiste de Pennsylvanie. Alors comme elle ne sait pas lire les panneaux, elle mettra du temps à se rendre compte qu'elle est dans un endroit différent de celui qu'elle vient de quitter, parce qu'elle remarque que les Noirs disposent d'une certaine liberté et surtout ils peuvent bénéficier d'emplois salariés même s'ils sont exploités.
Oui, vous avez raison de préciser qu'elle ne sait pas lire parce qu'elle n'a forcément jamais été scolarisée en tant qu'esclave.
Hein.
Oui. Elle va trouver un emploi de blanchisseuse à Philadelphie.
Oui, alors elle s'installe à Philadelphie, elle trouve une petite maison, mais il y a une chose qui l'obsède, c'est que sa famille est restée sous le joug de ce maître cruel. Elle travaille d'arrache-pied pour économiser un peu d'argent pour préparer son voyage, et elle décide de repartir chercher ses parents dans le Maryland, malgré le danger que ça représentait. Un soir, elle revêt des habits d'homme, elle reprend donc ce voyage vers la frontière entre le nord, donc abolitionniste, et la zone esclavagiste. Et il faut remarquer qu'elle se déguisait beaucoup pour ce voyage. Tantôt en jeune garçon, tantôt en vieille femme, un peu folle, enfin voilà.
Oui, parfois elle a des poules d'ailleurs. En 2-3 ans, Harriet Tubman va ramener, parce qu'elle va faire plein d'allers-retours hein, dans
oui,
la zone
ça.
Esclavagiste, donc au péril de sa vie, bien évidemment. Et elle va ramener une bonne partie de sa famille.
Voilà. Elle arrive à retourner dans le Maryland et elle ramènera à Philadelphie sa sœur, sa belle-sœur avec deux enfants, son frère, ses vieux parents qui marchaient à peine et enfin quelques voisins. Et dans les quartiers d'esclaves, on commence à parler de cette femme comme une héroïne, une Moïse noire qui conduit son peuple vers la liberté. Et on parle aussi de ce réseau d'évasion baptisé Underground Railways, le chemin de fer clandestin qui aide les esclaves à s'enfuir.
Oui, parce qu'il y avait évidemment des relais hein, pour protéger les esclaves qui fuyaient tout au long du chemin, même si c'était très dangereux, très, très risqué.
Voilà, donc ce réseau avait été créé par des abolitionnistes blancs et des noirs libres, et il comptait beaucoup de personnes dévouées dans le sud comme dans le nord, qui organisaient les évasions, qui informaient les fugitifs sur le chemin à prendre, qui les cachaient dans des granges abandonnées ou des maisons sécurisées, leur procuraient de la nourriture et les guidaient vers des villes abolitionnistes. Alors, oui.
À Philadelphie, Harriet va être repérée par ses actions aussi ?
Voilà, donc on parle tellement d'elle clandestinement en fait, hein, dans les quartiers d'esclaves, que des militants noirs du réseau d'évasion vont l'approcher et elle deviendra la plus célèbre passeuse d'esclaves de l'histoire afro-américaine. Sa tête est mise à prix par les planteurs, mais entre 1850 et 1860, elle a réussi à évacuer environ 300 personnes. Mmh. Et sa grande fierté, c'est de n'avoir jamais perdu un seul passager, comme elle les nommait. En effet, aucun fugitif ne sera abandonné en route, ni femmes enceintes, ni malades, ni blessées.
Et c'est au moment de la guerre de sécession, donc, qui oppose le Nord et le Sud, entre 1861 et 1865, que là, elle va avoir un vrai rôle officiel, reconnu par les autorités américaines ?
Oui, alors tout de suite, elle a un sursaut. Elle dit « cette guerre est la nôtre ». Et donc, elle vivait dans une petite ville de l'État de New York, à Auburn, et elle décide de rejoindre la Caroline du Sud, où sont postées les troupes nordistes. Elle est d'abord utilisée comme cuisinière, puis comme secouriste. Et là, elle, compte tenu de son passé à travers les bois, les pistes, où elle arrivait à faire fuir les gens, elle réussit à convaincre le colonel James Montgomery de lui confier un rôle d'éclaireur. Alors elle monte aussitôt un commando d'espions avec des fugitifs noirs qui connaissaient bien la région. Et elle va livrer de précieux renseignements à l'armée sur les mouvements de troupes ennemies. Et ce rôle sera reconnu. Et en juin 1863, en guidant sur le terrain une colonne de soldats noirs, Harriet va réussir à faire délivrer d'un seul coup 756 esclaves prisonniers de leur plantation. Alors l'exploit sera relaté dans les journaux et Harriet, devenue célèbre, sera sollicitée à travers tout le pays par diverses communautés afro-américaines pour témoigner de son action. Son autobiographie sera rédigée par une écrivaine blanche et connaîtra un grand retentissement. Et elle va utiliser ses droits d'auteur pour ouvrir en 1908 un foyer de personnes âgées pour noirs pauvres. C'était une femme très généreuse.
Ouais, c'est là qu'elle meurt, à plus de 90 ans.
Oui, elle a 93 ans, elle meurt le 10 mars 1913, après avoir continué à travailler comme blanchisseuse jusqu'à la limite de ses forces, parce qu'elle était restée pauvre. Et des années plus tard, donc les États-Unis comme le Canada vont prendre cette date du 10 mars de chaque année pour décréter une commémoration officielle, le Harriet Tubman Day. Voilà. Et les services postaux américains aussi vont émettre un timbre poste à son effigie.
Mais elle n'est toujours pas sur les billets de 20 dollars américains, alors qu'elle est extrêmement connue aux États-Unis.
Oui, donc c'est en plus, son histoire est enseignée dans les écoles, à la fois chez les Blancs, chez les Noirs. Et donc, sous le mandat du président Obama, il y a eu beaucoup de lobby et il avait accepté que Harriet Tubman, qui est vraiment une héroïne américaine, soit sur un billet de 20 dollars. Donc tout était mis en place, la réserve avait accepté, les billets devaient être diffusés et juste à l'arrivée de Trump, un de ses premiers gestes a été qui ne veut pas du noir sur des billets américains. Donc ça a été stoppé.
Qu'est-ce qui vous a le plus touché, vous, dans le parcours d'Harriet Tubman, Sylvia Serbin ?
En fait, c'est une femme, elle n'appartenait à aucun mouvement au départ. Elle a pris ses initiatives toute seule, courageusement, guidée vraiment par son instinct de survie et l'envie d'être libre à tout prix. Et donc, je trouve que c'est un très, très bel exemple qu'on peut montrer, qu'on doit enseigner d'ailleurs, parce qu'en Afrique, on n'enseigne pas dans les écoles l'histoire des Afro-Américains qui ont été arrachés au continent. Oui. Et donc, vraiment, c'est un très, très beau modèle de femme. Elle était humble, elle ne savait pas lire, elle parlait mal, mais elle était courageuse et elle avait beaucoup de culot pour s'imposer quand il fallait essayer de sauver ses gens.
Et sa famille venait probablement du peuple Ashanti au Ghana, hein, si les historiens ne se trompent pas, mais évidemment il y a peu de sources. Merci beaucoup Sylvia Serbin, vous êtes, bien sûr on peut retrouver tous ces parcours de femmes, d'héroïnes dans votre livre. Je vous laisse donner les références Sylvia.
Alors le livre c'est « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire » publié chez les éditions Médunéter à Paris.
Et bien sûr on vous retrouve toutes les semaines pour l'école à la radio. Merci infiniment, très bonne journée.
Merci Emmanuel.
Et merci à tous les contributeurs de cette émission. Les voisins, on attend vos réactions, vos questions. Demain, suite de l'école à la radio, nous serons avec Gérard Sansfaute. Pas pour faire des mathématiques d'ailleurs, mais cette fois-ci, il a envie de convaincre les enfants de l'utilité d'écrire pour parler de soi. Voilà, et bien sûr, vous postez vos messages au 33 1 84 22 71 71. À demain.
Présente Dionke.